Vous écoutez On lit pour vous.
Des Chefs-Inoux veulent s'unir pour être plus forts face à Hydro-Québec. Un texte de Thomas Gerbet, paru le 23 septembre 2024 sur Ici Côte-Nord. Des chefs de communautés Innu souhaitent négocier d'une seule voix avec Hydro-Québec alors que des projets d'énergie de plusieurs milliards de dollars sont envisagés sur leur territoire, a appris Radio-Canada. Seuls, ils craignent de ne pas obtenir assez de bénéfices comme dans le passé. On a développé des stratégies pour parler au nom de la nation Innu et se partager les revenus, explique le chef d'Ekwanichit Minga sur la côte nord, Jean-Charles Pietachaud. On essaie d'être unis, d'être solidaires et de trouver la meilleure formule de partage, ajoute le chef de Matimikouche-Lac-John, Réal McKenzie. On s'en va vers ça, tranquillement. On travaille. Radio-Canada est allé à la rencontre de plusieurs chefs Innu de la Côte-Nord cet été pour parler de leur relation avec Hydro-Québec. Dans son immense projet pour doubler la capacité électrique dans son réseau d'ici 2050, afin de répondre à l'augmentation de la demande, la Société d'État planifie plusieurs projets qui touchent le territoire des communautés Innu. On en veut des projets, des éoliennes et du solaire, mais pas de barrage, dit le chef de Noutachquan, Réal Teto. Sa communauté a signé récemment une entente de 5 millions de dollars sur 10 ans pour former davantage d'Innu au métier d'Hydro-Québec. D'autres ententes ont été annoncées cette année sur la Côte-Nord. 45 millions de dollars avec Pessamit pour mettre de côté les vieilles querelles et commencer à dialoguer pour des partenariats. 32 millions de dollars à Unamen Chipou pour régler un conflit lié à la centrale du lac Robertson alors que les Innu n'avaient pas été consultés. 28 millions de dollars avec Pakwashipi pour un dédommagement lié à cette même centrale. Ces ententes, communauté par communauté, c'est encore l'ancienne façon de faire, déplore le chef Jean-Charles Pietachaud, élu pour la première fois en 1991. Un membre de la communauté de Noutachquan nous a dit la même chose. La vieille génération, c'est fini. Place aux jeunes qui vont commencer à se défendre, ici. Hydro-Québec donnait des petits gâteaux pour que les communautés se ferment la gueule, alors qu'ils ont de l'argent en maudit en banque, dit-il. Le chef, Pietachaud, regrette qu'Hydro-Québec s'adresse à chaque communauté individuellement. Ça a été un des problèmes. Certaines communautés auraient mieux négocié que d'autres. Je ne veux pas blâmer les communautés qui ont signé des ententes dans le passé, dit-il, mais ce que je blâme, c'est qu'Hydro-Québec a profité d'une situation pour minimiser au niveau financier. Ekwanichit fait partie des communautés qui ont été compensées pour le développement du complexe hydroélectrique de la rivière Romaine. En plus de 70 millions de dollars prévus dans une première entente, signée en 2009, elle a obtenu en 2021 le versement de 57 millions de dollars sur 50 ans. Le problème, c'est que les besoins sont là, maintenant. Pas échelonné sur 50 ans, explique le chef en évoquant le manque de logements et d'infrastructures. On ne veut pas s'endetter. Jean-Charles Pietachaud évoque les discussions en cours entre chefs. Il donne l'exemple de projets de plus de 40 mégawatts dont les revenus pourraient être partagés entre l'ensemble des communautés Innu, même si ce projet est sur le territoire d'une seule communauté. Le projet éolien Apuyat, c'est le meilleur exemple, ajoute Réal McKenzie. Les communautés Innu sont actionnaires à 50 %. Ils ont dit « On embarque ensemble et on partage la richesse », raconte-t-il. M. McKenzie se réjouit de ce modèle, car il remarque que, quand on parle d'argent, ça amène parfois de la chicane ou de la division. Il rappelle aussi que les communautés de la nation Innu ne sont pas liées par un traité, contrairement à celle de la nation Cree. Hydro-Québec est ouverte à dialoguer avec une union Innu. C'est avec plaisir que nous poursuivrons le dialogue avec le ou les interlocuteurs que choisiront dans l'avenir les membres de la communauté Innu pour les représenter, nous dit la porte-parole d'Hydro-Québec, Lynn Saint-Laurent. Nous établissons les bases d'une bonne collaboration et de conversations ouvertes, dit-elle. La Société d'État rappelle qu'au cours des derniers mois, elle a multiplié ses interactions avec divers membres et regroupements de la communauté Innu dans le but de faire avancer la réconciliation économique. Le PDG, Michael Sabia, a visité de nombreuses communautés autochtones depuis son arrivée en poste en août 2023. Il s'est par exemple rendu deux fois à Unamen-Chipu, sur la côte nord, où Hydro-Québec a des visées pour un projet hydroélectrique sur la rivière Petit-Mécatina. La Société d'État a refusé de nous fournir une liste des communautés visitées par son PDG. Nous ne dévoilons pas le détail de nos rencontres qui sont de nature privée. Les chefs saluent l'ouverture de Michael Sabia. À l'automne 2023, Hydro-Québec a présenté sa stratégie de réconciliation économique avec les Premières Nations et les Inuits, et cela plaît aux chefs que nous avons rencontrés. Le PDG, Michael Sabia, a déclaré vouloir accélérer le processus de réconciliation lors de son audition dans le cadre de l'étude du projet de loi 69 sur l'énergie au début du mois. Il y a des bonnes intentions, dit Jean-Charles Pietachaud, qui est favorable à l'idée exprimée par Michael Sabia de partage de revenus à 50-50 avec des communautés actionnaires des projets. Il y a un changement de culture à Hydro-Québec, constate aussi Réal McKenzie. On sent qu'il y a une ouverture, qu'il veut vraiment trouver le meilleur partenariat. Le chef de Matimikouche-Lac-John est même surpris que le PDG se déplace autant dans les communautés. C'est du jamais vu. Il est accessible, on peut l'appeler quand on veut. Il a beaucoup de priorités à notre égard, contrairement à ses prédécesseurs, dit-il. Tout n'est pas rose pour autant. Il existe encore des conflits ouverts, comme celui devant la justice entre Ouachat-Mac-Maniou-Ténam et Hydro-Québec. Jean-Charles Pietachaud aimerait qu'en plus de réconciliation, Hydro-Québec parle aussi de réparation pour le passé. Dans le mémoire de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, APNQL, déposé dans le cadre de l'étude du projet de loi 69, on peut lire que « les Premières Nations ont été historiquement exclues de la planification, de la réalisation et de la mise en œuvre des projets de développement et qu'elles en ont subi les impacts négatifs sur leur territoire et leurs droits, sans bénéficier des retombées positives ». Hydro-Québec et le gouvernement du Québec ont profité et continuent de profiter de l'exploitation des ressources situées sur ces territoires, en dépit des droits des Premières Nations, peut-on lire dans le mémoire. C'est le temps pour les Premières Nations de dire leur fond de vérité et de dire que c'est peut-être le temps d'être maître chez nous aussi, a déclaré le chef de l'APNQL depuis 1992, Ghislain Picard, au micro de Radio-Canada à la suite de son passage à l'Assemblée nationale. La PNQL a proposé que les Premières Nations soient actionnaires d'Hydro-Québec et qu'un de leurs représentants siège au conseil d'administration de la Société d'État, mais le premier ministre François Legault a immédiatement rejeté cette idée. De toute façon, ce ne sont pas tous les chefs qui étaient en faveur. Ça aurait été plus difficile de s'opposer au projet ensuite, croit Jean-Charles Pietachaud. C'était « Des chefs Innu veulent s'unir pour être plus forts face à Hydro-Québec », un texte de Thomas Gerbet, paru le 23 septembre 2024 sur Ici Côte-Nord.
Moins de contrôle routier malgré les recommandations. Un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallée, paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir. Québec a ciblé la lutte contre la conduite avec les facultés affaiblies comme un enjeu prioritaire. Or, une enquête du Devoir montre que le nombre de contrôles routiers est en baisse de près de 30 % depuis 2018 dans l'ensemble des corps de police, et ce, malgré les recommandations répétées des coronaires qui demandent de les intensifier. Au Canada, le code criminel autorise les conducteurs à prendre le volant avec un maximum de 80 mg d'alcool dans le sang. Toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception du Québec et du Yukon, imposent aussi des sanctions administratives à partir de 50 mg d'alcool dans le sang. Les données du ministère de la Sécurité publique montrent que le nombre de contrôles routiers effectués pour la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool et la drogue a baissé de près de 30 % entre 2018 et 2023. Alors qu'en 2018, 1069 contrôles ont été effectués par les divers corps de police municipaux au Québec, seuls 782 ont eu lieu en 2023, selon les données obtenues par le Devoir. Du côté de la Sûreté du Québec, une baisse est aussi observée, mais ne peut être quantifiée en raison des moyens de pression des policiers en 2022 et en 2023. De 2018 à 2022, 19 462 contrôles ont été effectués en moyenne et en 2023, la SQ dit en avoir fait 6 789 en 6 mois, soit de juillet à décembre. Bien qu'il existe une opération nationale concertée qui se déroule principalement en décembre, au cours de laquelle l'ensemble des services de police du Québec intensifie leurs interventions de contrôle et de sensibilisation, nous avons constaté que peu de corps de police organisent ce type de contrôle en dehors de la période des fêtes. Le cabinet de la sécurité publique du Québec n'a pas souhaité commenter la baisse du nombre de contrôles routiers dans les corps de police municipaux. Il considère également que les données incomplètes de la SQ ne permettent pas d'établir une tendance. Les limites de la balloune. Il est 22h30, un jeudi soir de septembre 2024, lorsqu'une équipe de 17 policiers du service de police de l'agglomération de Longueuil, SPAL, installe un contrôle routier à la sortie du pont Victoria à Saint-Lambert. Près de 250 véhicules sont arrêtés cette nuit-là. Ce sera l'occasion pour les agents de faire souffler les automobilistes dans l'appareil de détection approuvé, la fameuse « balloune », une douzaine de conducteurs ayant pris un verre. « Vous n'avez pas dépassé la limite, mais je vois clairement que votre capacité de conduire est affaiblie. Vous avez les yeux vitreux et, quand je vous ai demandé votre permis, vous m'avez donné votre carte d'assurance maladie », explique un patrouilleur à un homme qui vient de « souffler » à 40 mg d'alcool dans le sang. « Je me trompe souvent », réplique le conducteur, visiblement pressé de partir. Le policier tente de sensibiliser l'automobiliste au risque qu'il court même s'il n'enfreint pas la loi. « Peut-être que dans 10 minutes, vous allez être rendu à 70 mg. Selon les personnes, on peut être affecté différemment. « Êtes-vous correct pour conduire? Parce qu'on peut vous appeler un taxi, lui dit-il. « Je suis correct », affirme le conducteur avant de remonter dans son véhicule. Même si la loi fixe la limite à 80 mg d'alcool pour 100 ml de sang, dans les faits, au Québec, seules les personnes au-dessus de 100 mg sont considérées comme étant en état d'ébriété. Lors d'un contrôle routier, une personne qui souffle avec un résultat de moins de 99 mg d'alcool dans le sang peut reprendre le volant. L'appareil de détection n'indique « échec » que lorsque l'alcoolémie du conducteur se situe au-dessus de 100 mg. La zone d'avertissement de caution entre 50 mg et 99 mg n'est pas suffisante pour une intervention policière légale. Il n'y a aucun pouvoir pour garder le conducteur ou maintenir son véhicule, explique l'agent évaluateur de sécurité routière Sylvain Forgue du SPAL. Pourquoi cette marge de 20 mg? L'appareil de détection est utilisé à l'extérieur, dans un environnement qui n'est pas optimal. ce n'est donc qu'un indicateur qui permet aux policiers d'amener au poste de police un conducteur dépassant 99 mg. Le test officiel, soit l'éthylomètre, se fait au poste et est l'outil officiel pour mesurer l'alcoolémie et pour porter des accusations criminelles. Avec cette marge, les policiers évitent également une possible contestation en cour. La conduite avec les facultés affaiblies est plus dure à prouver qu'un meurtre, soutient Sylvain Forgue. Selon le policier, l'enquête va être beaucoup plus scrutée puisque la plupart des conducteurs n'ont pas d'antécédents judiciaires et veulent s'éviter un casier judiciaire. Un peu plus tard dans la soirée, un duo de patrouilleurs annonce à une conductrice qu'elle a échoué au test d'alcoolémie. « Ça ne peut pas m'arriver, pas à moi », dit en sanglotant la femme, appuyée sur son automobile de luxe. Après avoir été mise en état d'arrestation, elle est amenée au poste pour que son alcoolémie soit mesurée à l'éthylomètre. La conductrice souffle à 102 mg d'alcool dans le sang. L'élément dissuasif efficace pour prévenir. Selon une analyse maison non exhaustive des dossiers de coroner effectués par Le Devoir, au moins 247 Québécois ont perdu la vie à cause de l'alcool au volant entre 2020 et 2023. Le nombre de conducteurs décédés ayant une alcoolémie de moins de 100 mg représente un quart des décès, selon l'analyse du Devoir. Les données fournies par le SPAL montrent de leur côté que 25 % des personnes qui soufflent dans l'appareil de détection approuvé se situent dans la zone d'avertissement, soit entre 50 et 100 mg d'alcool dans le sang. Les mesures punitives sont un élément essentiel dans la lutte contre la conduite avec les facultés affaiblies selon tous les experts à qui Le Devoir a parlé. La crainte d'être arrêté, d'avoir des points d'inaptitude, une amende, constitue un élément dissuasif, estime Étienne Blais, co-auteur d'un avis scientifique de l'Institut national de santé publique du Québec, qui recommandait l'implantation de mesures administratives dès une alcoolémie de 0,05. Même si ce n'est qu'une mesure administrative, les études dans les autres provinces et pays qui l'ont adoptée démontrent que c'est un mécanisme qui a du succès, ajoute-t-il. Le coroner Donald Nicole ne rate pas une occasion de recommander l'intensification des contrôles routiers lorsqu'il rédige un rapport où le décès est lié à l'alcool au volant. En janvier 2023, il recommandait notamment au ministère de la Sécurité publique d'inciter tous les corps de police du Québec à recourir au dépistage obligatoire d'alcool de façon plus systématique et à augmenter le nombre de contrôles policiers en lien avec les capacités de conduite affaiblies par l'alcool ou la drogue tout au long de l'année. Au moins 4 de ses collègues en sont venus à la même conclusion dans une enquête depuis 2020. Les contrôles sont une priorité pour sauver des vies sur les routes du Québec, considère Donald Nicole. L'idée d'imposer des sanctions administratives à partir d'un taux d'alcool de 0,05 a ses mérites, estime-t-il, mais c'est la peur de se faire prendre qui va dissuader. Alors, peu importe le chiffre qu'on mettra, s'il n'y a pas de moyens additionnels de contrôle, ça restera un chiffre. Depuis 2018, les policiers ont également le pouvoir de faire passer un test d'alcoolémie à tout conducteur qu'ils soupçonnent d'avoir les facultés affaiblies. Si, chaque fois qu'ils arrêtent quelqu'un qui n'a pas fait un arrêt obligatoire, ils peuvent vérifier son alcoolémie, eh bien, ça crée une crainte. Mais, actuellement, ça ne se fait pas, affirme Donald Nicole. Même chose pour les opérations d'alcool au volant. S'il y en avait chaque semaine, pas juste la nuit pendant le temps des fêtes, mais aussi le reste de l'année, en fin d'après-midi, ça amènerait certaines craintes. Les gens auraient peur de se faire contrôler et il y aurait une portion de consommateurs qui seraient probablement touchés par ces mesures. C'était « Moins de contrôle routier malgré les recommandations », un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallée, paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir.
un automne varié pour Samuel Larochelle. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 26 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Fidèle à son habitude, l'auteur et journaliste Samuel Larochelle multiplie les projets cet automne. Non seulement continuera-t-il à écrire des chroniques et des articles dans le présent magazine, lui qui en a déjà rédigé quelques centaines, mais il publiera également la suite du roman graphique « Le plus petit sauveur du monde », cette fois avec des dessins de Geneviève Biguet. Le premier tome a déjà connu un succès remarqué, remportant notamment le prix du gouverneur général. En décembre, la voix de Samuel Larochelle pourra être entendue sur la plateforme Audio, alors qu'il animera un balado. Il assurera aussi l'animation de son désormais traditionnel cabaret Accent Queer, qui se tiendra à l'usine C en octobre. Comment est venue l'idée d'une suite pour Le plus petit sauveur du monde? La suite existait déjà dans ma tête. J'avais quelque chose de plus à dire. Après avoir suivi Florent dans sa grande crise d'éco-anxiété, je voulais dans une suite qu'il passe à l'action, qu'il multiplie les actions pour protéger la planète. Mais, en parallèle, il est devenu un grand frère, donc il essaie aussi de protéger sa petite sœur, quitte à ne pas écouter ses limites, à se le faire reprocher et à répondre à ses deux mamans. « Comment voulez-vous que j'en fasse moins alors que personne n'en fait suffisamment ?» L'idée était donc de se dire, après la peur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a de concret qu'on peut mettre en place comme enfant ou comme adolescent ou même comme jeune adulte? Parce qu'on se sent tellement impuissant que de montrer beaucoup, beaucoup de petites, moyennes et grandes choses, parce qu'il y a bien des choses hyper originales dont on n'a jamais entendu parler dans ce livre-là, pourrait inspirer le monde. Tu as publié en juin dernier ton livre « J'ai déjà fait sourire un douanier ». Quelle a été la réception du livre? Tout l'été, j'ai reçu des photos de gens qui étaient en train de lire le livre eux-mêmes en voyage ou en vacances. J'ai reçu plein de messages chaque semaine de gens que j'ai divertis, que j'ai émus, qui se sont reconnus dans cette anxiété de voyageur et qui ont trouvé ça profondément drôle de me suivre dans mes péripéties. La réaction est vraiment belle. J'ai eu un échange aussi avec Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, la semaine dernière, sur Instagram, et il m'a dit à quel point il a aimé le livre et qu'il n'était pas choqué par les petites pointes que j'ai envoyées à la CAQ dans des morceaux du livre. Je l'ai trouvé très bon joueur. J'ai aussi Yannick Nézet-Séguin, le chef d'orchestre, qui m'a envoyé un mot me disant qu'il avait beaucoup aimé ce livre-là, quelques mois après avoir lu et beaucoup apprécié le roman « Elias et Justine ». C'est vraiment très le fun de recevoir ces commentaires-là. À Montréal, le cabaret Accent Queer se déroule à l'usine C depuis l'année dernière. Ce lieu permet-il d'amplifier l'expérience du cabaret? C'est le bon mot. Ça amplifie l'expérience. La salle est plus grande. Elle est pleine à craquer. 450 personnes avec beaucoup d'énergie, qui rient fort, qui sont émus en même temps. Non seulement on a la capacité d'accueillir plus de gens à l'usine C, mais après le spectacle, on libère la scène et toute la foule est invitée sur la scène pour danser au rythme pop d'un DJ. C'est donc un spectacle, puis un party. C'est vraiment, vraiment apprécié. On voit aussi comment la foule est diversifiée. La moitié queer, la moitié hétéro, mais aussi parmi les queer, une grande variété de générations. Il y a plein de mini-groupes dans nos communautés, mais là, on les voit réunis dans un même endroit. C'est très le fun à voir aller. Dans les artistes, il y aura la comédienne Debbie Lynch-White, la scénariste d'humour et co-animatrice du balado Pas peu fière, Florence Nadeau, l'humoriste et comédienne Erika Suarez, qu'on a vue dans Big Brother Célébrité et dans Après le déluge, les mots de Fabrice Nguena, des extraits de son livre « Afroqueer », mais qui vont être livrés sur scène par l'interprète Vlad Alexis, et M.D. Dussault, qui travaille à la direction de la Coalition des familles LGBT+. Je serai le sixième artiste. en plus d'animer, et le DJ sera Plastic Patrick. Tu sors un balado en décembre sur Audio. Peux-tu nous en dire davantage? Il y a une série de fiction qui va être lancée en décembre sur les ondes de Télé-Québec. Ça s'appelle « La dernière communion ». C'est réalisé et écrit par Élie Jean Tachy. Et il y a parmi les acteurs Guy Jodoin, Fayol Jean, Jean-Pierre Bergeron, Louise Portal. On suit trois frères religieux qui sont obligés de quitter leur institution quand elle ferme et qui arrivent dans le vrai monde et qui doivent, à un âge très avancé, se réinventer, se trouver un emploi. Il y aura un début, pour l'un des trois, sur les applications de rencontres homosexuelles, et c'est Guy Jodoin qui fait ce personnage. Ces passages-là sont absolument fabuleux. Les créateurs ont décidé de faire un balado en lien avec la série de fiction. Le balado s'intéresse à 6 personnes qui, très tard dans leur vie, ont fait un 180 degrés, un grand virage, tout comme les personnages de la série. On raconte l'histoire de vraies personnes, en compagnie, à chaque épisode, d'un ou d'une interprète de la série de fiction. Ce sera lancé en même temps que la série de fiction en début décembre. Il y a entre autres un homosexuel qui a été en couple pendant 50 ans avec son amoureux. L'amoureux est décédé et il a plongé dans une nouvelle étape dans sa vie amoureuse après cette très longue relation. On a aussi une personne qui a fait sa transition de genre très tard dans sa vie. Fugue célèbre ses 40 ans cette année. Y a-t-il de tes chroniques qui t'ont particulièrement marqué? C'est peut-être parce que c'était ma première, mais le texte dans lequel je racontais que, en société, on parle souvent du moment où on comprend qu'on est queer, du moment qu'on l'accepte pour soi-même et ensuite de l'étape où on l'assume face au reste du monde. J'avais fait une chronique sur une étape dont on ne parle presque jamais, celle de quand on est content d'être différent et d'être queer et de ne pas appartenir à la majorité. Je pense que ce texte-là avait résonné très fort. Il y a aussi la chronique dans laquelle je raconte que mon père appartient à des catégories qui auraient pu faire de lui quelqu'un qui a des préjugés, mais que ça n'a jamais été le cas, même tout le contraire. C'est d'ailleurs un texte que je lis souvent quand je vais dans une nouvelle ville avec le cabaret Accent Queer. Je me rappelle aussi qu'un texte sur le malaise intra-communauté queer envers les personnes plus féminines avait été lu jusque dans l'Europe francophone et avait eu des statistiques de lecture impressionnantes. C'était « Un automne varié pour Samuel Larochelle », une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 26 septembre 2024 dans le magazine Fugue.